On va poursuivre. Lâchez pas, dernier bout droit. On va poursuivre évidemment sur ce qu'on a vu, mais d'entrée de jeu, je me permets deux annonces, si on veut. D'une part, ben, c'est qu'il y a un élément que j'ai oublié, je vais y revenir là, rapidement pour compléter ce qu'on a vu dans la deuxième heure. Donc, je viens dans une minute. Deux autres choses. Une que vous allez aimer a priori, mais qui, dans les faits, à bien y penser, ne sera pas si majeure que ça. C'est qu'on va demander, est-ce que les notes annotées, là, ce qu'on voit avec tous mes graffitis, vont être aussi déposées sur le site? La réponse est oui. Moi, comme je l'ai dit, je suis ici pour vous permettre d'apprendre, puis d'une certaine façon, si je peux vous aider ou rendre ça plus facile, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Donc, je vais déposer. Mais ça, je me dis, ben, ça va peut-être vous sourire, mais là où ça... C'est pas si matériel que ça, c'est que c'est plutôt rare que je vais écrire autant. Là, ça, c'est un exercice que je m'étais laissé, de laisser juste les lignes sans autre. Mais dans les faits, je vais mettre des choses en gras, faire des petites flèches, là, mais c'est plutôt rare que je vais écrire autant sur les notes de cours. Dernière chose, on va poursuivre, mais c'est quand même notre premier cours, donc je ne fais pas exprès de vous garder jusqu'à E20. Là. Fait qu'on va essayer de terminer un petit peu plus vite. Le point que j'ai oublié, c'est intéressant d'un point de vue pédagogique, c'est l'invalidité. Là, si on retourne au haut de la page 6 des notes, bon, c'est dit, l'ARRQ paye 40 % du salaire, ABC complète jusqu'à 66 2/3. Là, je vous ai dit, n'oubliez pas qu'il y a des plafonds. L'ARRQ, les régimes publics ont toujours un plafond. Dans le cas de ABC, puis c'est à lire ça que vous allez voir plus en détail, on a aussi fixé un plafond, c'est-à-dire qu'au-delà d'un certain niveau de salaire, le 66 2/3, il est ramené à 45 %. Ça tombe bien parce qu'à un moment donné, le RFQ débarque. Donc, c'est plein 45 qui est à la charge de l'employeur, alors qu'à des revenus plus faibles, bien, c'est le pourcentage est plus élevé, 66 2/3, mais dans les faits, le RFQ en paye la majorité, paye 40. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que il y a des situations, par exemple, un accident de travail. Vous devenez invalide, là, vous tombez, faites plaisir à vos parents, vous avez accepté de faire des travaux de peinture à la maison. Puis c'est dans la corniche, vous êtes monté dans une échelle, puis vous tombez en bas, bien, vous devenez, évidemment, je ne vous souhaite pas, là, on est toujours un peu pathétique dans ce qu'on dit, là, mais vous devenez invalide, vous allez avoir ce qui est prévu là, puis vous êtes un employé d'ABC, ça tombe bien, donc en plus du régime public, vous allez avoir une prestation d'assurance salaire jusqu'à 66 2/3. Sauf que si au lieu d'être monté dans l'échelle, faire plaisir à votre papa-maman, vous êtes monté dans l'échelle pour répondre à la demande de votre employeur, bien, ça devient un accident de travail. Puis comme c'est un accident de travail, c'est la CSST qui paye. Puis comme c'est la CSST ou c'est un accident de travail, on paye 90 %. OK? On va voir pourquoi, quand on va étudier les accidents de travail, je vous donne juste un avant-goût. C'est comme c'est un accident de travail, puis c'est le boss que vous avez monté dans l'échelle. Puis c'est un maudit vieux échelle, puis c'est mauditement en haut. Vous pouvez dire, hey, boss, tu es responsable de mon incapacité, je vais te poursuivre. Le boss, il dit, non, pas juste le boss, là. L'ensemble des employés travailleurs québécois, on se dit non, on ne commencera pas à se poursuivre les accidents de travail. On va mettre en place un régime étatique. Mais la contrepartie de ça, c'est qu'il va falloir que ce soit plus généreux que le minimum. Parce que si c'est juste le minimum, tu vas peut-être avoir encore le goût de poursuivre. OK? Donc, retenons pour l'instant que dans les situations d'accident de travail, CSST, c'est 90. Puis si on parle d'un accident d'auto, donc de la SAAC, c'est aussi 90. Ça va pour ça? Des questions par rapport à cette merveilleuse cartographie? C'est beau? Là, on va se tourner du côté du point 3, les différents mécanismes collectifs. Dans ça, bien, il y a différentes sous-sections. A, c'est les critères distinctifs. B, les régimes universels. C, les régimes d'assurance, entre parenthèses ou non, sociales à prestations déterminées. Puis ça s'enchaîne comme ça. Ce qu'on va voir ce matin, là, c'est juste ABC, puis on prendra ça ensemble vendredi matin. Ça va? Bien, quand on parle de mécanismes distinctifs, on est parti avec l'idée, évidemment, qu'il y avait des mécanismes distinctifs, il y avait des mécanismes individuels. Ce qui distingue, bien, d'abord, ce qui distingue les mécanismes collectifs des mécanismes individuels, mais de façon plus fine ici, c'est de voir qu'est-ce qui distingue les différents mécanismes collectifs qui sont offerts. Bien, une première distinction qu'on peut faire, c'est de savoir s'il s'agit d'un régime public ou privé. OK? On a déjà vu des exemples. Les objectifs, on s'est parlé qu'il y avait trois objectifs poursuivis, minimum de ressources, transfert, puis assurance. Bien évidemment que quand on parle d'assurance collective ou quand on parle de transfert, notamment mieux en vue de la retraite, Bien, on peut très bien avoir ici, pour ça, des régimes publics et privés. Par contre, quand on parle de minimum de ressources, on parle nécessairement de régimes publics. Okay? Par exemple, si je parle de l'aide sociale, ce n'est pas les employeurs qui garantissent un minimum de ressources à tout le monde, c'est le gouvernement. D'accord? Autre élément qui est distinctif des différents régimes mécanismes collectifs, c'est le niveau des prestations. Okay? Par exemple, on pourrait avoir un régime public de base, par exemple le RRQ. On pourrait avoir un régime public total, par exemple la CSST. De la même façon qu'on pourrait avoir un régime privé complémentaire, par exemple, si on parle des RCR, régimes complémentaires de retraite, de la même façon qu'on pourrait avoir un régime privé total, l'exemple de ça, l'assurance salaire courte durée, enregistré à l'assurance-emploi. Enregistré, ça veut dire que tu es reconnu puis tu n'as pas besoin de payer la prime à l'assurance-emploi qui couvre l'assurance-salaire. Mais évidemment, dépendant de la nature du régime, bien, le niveau des prestations va varier. Si tu es complémentaire, tu payes juste une partie du besoin de protection. Si tu es total, tu payes la totalité. Ça va? Après tout, plus j'y pense, plus je vais peut-être prendre goût à écrire. Là, peut-être ça va valoir la peine d'avoir des copies annotées. Les conditions d'admissibilité, bien ça, évidemment, on va y venir. Mais ce qu'il faut retenir pour l'instant, quand on parle de population couverte, il y a une grosse distinction fondamentale, c'est que c'est soit toute la population ou seulement les travailleurs-travailleuses. Okay, puis évidemment, si on parle d'un régime d'entreprise, c'est nécessairement juste les travailleurs-travailleuses, oui, de cette entreprise-là. Mais si on parle d'un régime public, on peut avoir des régimes publics qui couvrent toute la population, alors qu'à l'inverse, il peut y avoir des régimes publics qui couvrent juste les travailleurs. Si on parle de remplacer du revenu de travail, bien évidemment, tu n'as pas besoin de couvrir les gens qui ne travaillent pas. Conditions particulières, bien évidemment, il faut d'abord qu'il y ait réalisation d'un risque, que tu deviennes invalide, tu deviennes malade, tout ça. Mais au-delà de ça, on pourrait avoir d'autres conditions, par exemple, d'un minimum de cotisation. Ça, bien sûr, c'est juste un exemple. Ça va? Dernier volet qui est important aussi, qui va nous occuper, va nous animer pendant la deuxième partie du cours, ce sont les modalités de financement. Donc, on va se donner un break par rapport à ça. On va oublier ça pour quelques semaines, puis on va y revenir. Sachez pour l'instant qu'il y a deux grandes différences, source de financement puis technique de financement. Source de financement, c'est très, très simple, c'est de savoir qui paye. OK? Si c'est un régime public, ben, ça peut être de dire, c'est les revenus généraux des gouvernements, donc à même les impôts généraux. Par exemple, l'assurance santé, on paye ça avec nos impôts. À l'inverse, bien, l'assurance-emploi, le régime de rente, on paye ça avec une cotisation distincte. Une cotisation d'assurance qu'on associe au régime de rente, à l'assurance-emploi et à CSST. Puis quand les gens vont venir nous parler dans la deuxième demi-session des projections actuarielles qui sont faites pour le régime de rente, ils vont nous dire comment ils établissent le taux de cotisation qui est requis pour financer le régime de rente. De la même façon, quand une autre personne va venir nous parler de la CNSST, nous parler de la tarification des produits ou des protections de la CSST, c'est pour une cotisation qui devra être versée par l'employeur. Évidemment que si on parle de régime, quand on parle de revenus généraux, on parle nécessairement de régime public. Quand on parle de cotisations distinctes, ça peut être des régimes publics comme ça peut être des régimes privés. Ça va? Les techniques de financement, ça réfère notamment à la capitalisation. La capitalisation, c'est de constituer une réserve. Okay? Les retraités actuels du régime de rente, là, si on dresse un portrait très, très macro, on est à 30 000 pieds d'altitude, en train de prendre un petit verre de vin dans l'avion, là, si on dit comment c'est financé le régime de rente, il y a deux façons de le financer. C'est que tu peux faire payer les rentes aux retraités actuels par les cotisants actuels. Donc, moi, je travaille, je prends, je verse une cotisation au régime de rente. On prend cette cotisation-là et on s'en sert pour payer les prestations payables à mes parents qui sont déjà à la retraite depuis un bon nombre d'années. Donc ça, c'est du transfert entre les générations, tu n'as pas besoin de réserve. L'autre façon, on est toujours à 30 000 pieds à prendre un petit verre de vin, c'est de dire « Hey, ça ne marchera pas cette affaire-là ». Il faut que la cotisation qui est versée par Denis Latulippe en vue de la retraite, elle soit accumulée dans un fonds qu'on appelle en termes actuariels, en maths actuariels, une réserve actuarielle. Puis ça, bien, c'est de la capitalisation. La capitalisation, c'est de constituer un fonds pour payer des prestations futures qui découlent d'engagements qui sont pris maintenant. OK, les engagements, c'est que si je verse des cotisations maintenant au régime de rente, bien, le régime, puis quelque part, il y a quelqu'un qui me doit de l'argent parce que j'ai versé une cotisation. Puis quand je vais arriver à la retraite, je m'attends d'avoir un retour sur mon investissement, sur ma cotisation. Donc, si on a mis l'argent de côté, fine, pas de problème. Si on n'a pas, bien, ça va être vous autres qui allez payer ma rente de retraite. Je ne sais pas si ça va vous tenter, je ne sais pas si vous allez souvenir de moi, là, mais on en reparlera pas, peut-être à ce moment-là. Ça va pour ça? Dernière chose, bien ça, une fois qu'on établit ces critères distinctifs-là, on peut voir qu'il y a quatre grandes façons d'assurer la sécurité financière des gens par le biais de mécanismes collectifs. Un premier, c'est ce qu'on appelle la prévoyance, l'assurance, l'épargne. Évidemment que ça peut être public ou ça peut être privé. C'est de l'assurance collective, des régimes de retraite. Il y en a deux autres ici qu'on appelle des régimes universels ou des régimes de revenus garantis qui sont nécessairement publics. Universel, c'est pas compliqué, c'est tout le monde ou tout le monde admissible. Revenus garantis ou assistance, c'est, appelons ça, personne dans le besoin. Donc, c'est des gens qui ont des besoins particuliers, qui ne sont pas couverts par d'autres choses, qui se ramassent sans dessous, là, ou qui ont besoin d'un supplément. Donc, ça sera des personnes dans le besoin. Puis, le dernier cadran de notre affaire, puis c'est pas sorcier, c'est la fiscalité. La fiscalité, puis on va voir ça le vendredi. La fiscalité, c'est d'abord et avant tout une source de revenus, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui payent des impôts pour qu'on puisse, justement, payer des prestations via les autres mécanismes. L'autre élément, puis ça, vous avez, ceux qui ont suivi cette émission, vous avez dû voir ça, la fiscalité peut devenir aussi un incitatif à une protection. Si on dit, tu vas payer moins d'impôts, tu mets de l'argent dans un régime de retraite, tu vas être tenté d'en mettre, OK? Donc, c'est un incitatif fiscal, qu'on appelle. Donc, trois grands types qu'on va voir, outre la fiscalité, puis on conclura vendredi là-dessus. Pour l'instant, ce qu'on va regarder, c'est juste, comme je vous l'ai dit, les points B et C, les régimes universels, puis les régimes d'assurance qu'on dit à prestations déterminées. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Ça va? Bien, les régimes universels, c'est pas compliqué, hein? C'est des prestations qui sont payées à toutes les personnes qui satisfaisant en conditions de résidence et d'âge. Deux exemples pour le Québec, pour le Canada. Un premier exemple, c'est la pension de la sécurité de la vieillesse. Okay? Toute personne 65 ans et plus, avec une résidence, quand je dis résidence, c'est d'avoir résidé au Canada pendant un certain nombre d'années. Toute personne qui a 65 ans ou plus, puis qui a une résidence minimale, un nombre d'années minimal d'années de résidence au Canada, aura droit à la PSV. L'autre gros exemple, l'exemple à 100$, là, c'est l'assurance santé. Le fait de pouvoir se faire soigner, bien évidemment, il y a certaines protections qui sont offertes par l'État. Puis, bien, les personnes qui vivent ici ont accès à ça, là, strictement sur une base de conditions de résidence. Puis là-dessus, vous avez votre première question dans la réflexion préalable. Je vous sonde là-dessus. Donc, allez-y selon vos convictions profondes, savoir comment ça devrait marcher. Évidemment, quand on parle de ces régimes universels-là, c'est des régimes qui ont une forte connotation sociale. Donc, ils sont financés à même les revenus généraux des gouvernements. Donc, on ne paye pas une cotisation distincte pour la PSV, de la même façon qu'on ne paye pas une cotisation distincte pour l'assurance santé. Il y en a eu une, ça a été fortement critiqué, elle a été retirée. C'est perçu comme un acquis social que tous devraient avoir accès à l'assurance santé, indépendamment de leurs revenus. Puis, bien, de ce fait-là, c'est payé à même les revenus généraux du gouvernement. Quand je dis objectif variable, je vais vous donner juste un exemple, puis là, on pourrait faire du cas par cas. ça peut être d'offrir un minimum de protection. OK? L'exemple de ça, ça serait la PSV. La PSV, c'est 15 % du salaire d'un travailleur moyen. Tu ne vis pas riche avec ça, là. Tu ne te promènes pas à 30 000 pieds d'altitude avec ça. OK? Mais c'est d'avoir un minimum pour tout le monde. À l'inverse, ça peut être une protection beaucoup plus large, protection qu'on pourrait appeler de protection globale ou large. Donc, tu es ambitieux. Non seulement tu veux couvrir tout le monde, mais tu veux offrir une protection substantielle à tout le monde. L'exemple de ça, l'assurance santé. C'est pas rien, l'assurance santé, ça coûte une beurrée la santé au Québec et dans tous les pays développés. Puis évidemment, on a quand même fait le choix comme société d'offrir cette protection-là parce que on dit que c'est le propre d'une société développée que des gens qui sont malades puissent se faire traiter indépendamment de leurs conditions financières. Les avantages du régime universel, on a identifié deux, bien c'est simple. La PSV, c'est pas compliqué, là, c'est le même montant que payait tout le monde ou à peu près. Fait que ça ne prend pas bien des serveurs informatiques calculer ça. L'égalité de traitement, ben, tu appelles, tu dis j'ai droit à quoi? Bon, tu dois X dollars et X cents par mois, là. Ça va? Les désavantages, bien évidemment, ça peut facilement devenir très dispendieux. Je l'ai dit, la PSV, c'est pas grand-chose, mais reste qu'on la paye à tout le monde. Il y a des gens qui sont à la retraite, qui ont 1 million de revenus par année, bien là, c'est pas tout à fait vrai, il y a une récupération qui se fait. Mais, tu sais, un régime qui est universel au sens strict, c'est qu'indépendamment de tes revenus, on va te couvrir puis on va te payer. Bien, tu sais, peut-être que tu n'as pas besoin vraiment parce que tu peux t'organiser par toi-même avec les revenus que tu as, mais on le couvre en main. Puis comme tu couvres tout le monde, bien, ça rend ça beaucoup plus dispendieux. Puis comme c'est dispendieux, bien, règle générale, on va chercher à limiter la protection, limiter les coûts, de telle sorte que ça peut facilement devenir un mécanisme qui est inefficace pour combattre la pauvreté. OK? Parce que, par exemple, la PSV, on s'est dit, hey, ça n'a pas de bon sens, on ne peut pas donner un gros montant, on le donne à tout le monde. Résultat, on donne 15 % du salaire moyen, supposons. Bien, 15 %, c'est pas énorme. Tu sors pas le monde de la pauvreté avec 15 % d'un salaire moyen. Donc, c'est le fun parce que tout le monde en a un peu. C'est plate parce que ceux qui en ont vraiment besoin, ils n'en ont pas assez. Donc, ça demeure un régime qui est inefficace pour combattre la pauvreté. Ça va-tu pour ça? Dernier élément qu'on va regarder ensemble aujourd'hui, c'est les régimes d'assurance à prestations déterminées. Puis là, bien évidemment, on peut être dans l'univers public ou privé, mais on parle toujours des régimes collectifs. Et en fait, si j'ai mis « social » entre parenthèses ici, c'est parce que je l'ai associé à « public ». Ça va? Parce qu'en général, un régime d'assurance qui prévoit une prestation déterminée, c'est établi sur des bases actuariellement neutres. Ça veut dire que tu devrais payer en fonction de ton risque pour que ce que tu vas devoir payer devrait être équivalent à ce que tu peux espérer toucher. OK? Ça, c'est vrai à la limite dans un régime individuel, ou c'est plus vrai dans un régime individuel. Quand tu tombes dans un régime collectif privé, bien, c'est le groupe qui, au total, devra être actuariellement neutre, en général. On présente ça simplement, de telle sorte que l'ensemble du groupe vont payer l'équivalent de ce qu'ils vont toucher. Puis, évidemment, que quand tout le groupe paye, bien, ça ne veut pas dire qu'à posteriori, tout le monde va en avoir eu pour son argent. Vous avez vu ça si vous avez suivi le moindrement de cours en taxe. C'est qu'il y a, par exemple, si y a un décès prématuré, bien, tu vas payer toute ta vie, tu n'auras pas grand-chose. À l'inverse, si tu es un centenaire consacré, tu vas avoir touché beaucoup plus que ce que tu vas avoir payé. Sauf que, d'un point de vue d'espérance, d'un point de vue espéré, d'espérance mathématique de ce que tu vas toucher, devrait être équivalent à ce que tu vas payer, mais pour le groupe dans son ensemble. Fait que s'il y en a qui ont une condition de santé plus précaire, bien, ils vont quand même payer le même taux de cotisation au régime de retraite, de la même façon qu'ils vont payer le même taux de cotisation à la protection d'assurance santé. Ils vont toucher moins dans le régime de retraite, ils vont toucher plus dans l'assurance santé, puis on ne sait pas trop le net de tout ça. Mais, d'un point de vue actuariel, ça peut être neutre sur base du groupe. Quand je mets en parenthèse sociale, puis j'associe ça au régime public, c'est qu'on peut faire le choix volontaire, dans un régime d'assurance à prestations déterminées, de quand même assurer une certaine redistribution en fonction des gens qui en ont plus besoin. Pour une finalité davantage sociale de, par exemple, combattre la pauvreté à travers ces mécanismes. Donc, à la base, ça se veut des régimes d'assurance, mais il peut y avoir des éléments de redistribution qui se retrouvent dans ces régimes publics. On verra ça plus en détail quand on les examinera un par un. Ça va-tu pour ça? Ce qu'il faut noter aussi par rapport à ça, je dis ici couverture et admissibilité, pas universelle. Classiquement, ce que ça veut dire, c'est que ça couvre seulement les travailleurs. Si vous devenez invalide demain matin, incapable de travailler, ben, faut pas compter sur le régime de rente pour vous assurer une grosse protection parce que vous avez peu travaillé jusqu'à maintenant. Il y a plus de chances que vous vous retrouviez sur l'aide sociale, à moins, par exemple, qu'il s'agisse d'un accident d'automobile ou à moins qu'il s'agisse d'un accident de travail. Mais la couverture, par exemple, d'assurance invalidité n'est pas universelle, c'est-à-dire que toute personne n'est pas nécessairement couverte. Puis ça, ça a posé des beaux mots de tête quand ils ont mis en place l'assurance automobile. Parce que si je parle de la rente de retraite du régime de rente, ben je dis, je veux faire de ça un programme de remplacement de revenus. Je veux compenser la perte de salaire d'une personne qui arrête de travailler. Je vais la faire cotiser toute sa vie pour ça. Puis ça va bien, elle arrête de travailler. J'ai encaissé 40 ans de cotisation, je paye une rente. Quand ils ont mis en place l'assurance automobile, un des questionnements importants qu'ils ont eu à régler ou sur lesquels ils ont eu à se pencher, ben c'est vous. Vous êtes étudiant. Prenons le cas simple, vous ne travaillez pas. OK? La SAAC dit, bon, on va prévoir une prestation de remplacement de revenus, c'est-à-dire que si vous avez un accident d'automobile, on va remplacer le revenu, votre revenu. Mais là, vous n'avez pas actuellement. Mais si, par exemple, vous avez besoin d'une prestation d'invalidité pour le restant de vos jours, on ne peut pas supposer que comme vous n'aviez pas de revenu au moment de l'accident, vous n'auriez jamais eu de revenu. Donc, il faut y aller sur la base d'un revenu présumé. OK? Donc, c'est des nuances, là. Mais on y reviendra, là. Mais il faut voir que tous les régimes publics ne visent pas nécessairement tout le monde, à moins, évidemment, d'être universel. Puis, de façon plus fine, puis on verra ça plus en détail plus tard, c'est seulement les travailleurs qui sont couverts par bon nombre de ces régimes. Un élément qui est important, ça ne couvre pas tout le monde, mais c'est obligatoire pour les personnes admissibles. Ça, ça peut vouloir dire que tu n'as pas le choix de participer, il faut que tu cotises. Ça peut aussi vouloir dire que ton employeur, par exemple, s'il s'agit d'un régime privé, ne pourra pas t'exclure. Exemple, l'assurance médicaments. Donc, il y a des dispositions qui vont encadrer le fait, ça peut être une question de conditions préexistantes, comme on a vu tout à l'heure, là, la question qui a été posée, qu'une personne qui est admissible au régime, parce que, par exemple, il travaille chez ABC, il se doit d'être couvert comme les autres. Il se doit d'être couvert, ça veut dire qu'il ne peut pas être retiré, rejeté, il ne peut pas être le déclarer inadmissible. Puis de la même façon, il ne peut pas choisir de ne pas participer. Il peut y avoir certaines clauses, mais l'esprit général, c'est qu'en général, c'est obligatoire pour les personnes admissibles. Financement, on verra ça plus tard. Cotisation distincte, on verse une cotisation, une prime d'assurance, une cotisation retraite. Il y a une certaine relation, puis je dirais même que la relation, elle est positive entre les cotisations et les prestations. Ce que je veux dire par là, c'est que plus vous avez un salaire élevé, plus vous allez verser une cotisation élevée, puis plus vous allez avoir une prestation qui est élevée. On verra vendredi, quand on parle de régime de revenus garantis, par exemple, c'est exactement le contraire. Plus vous avez de revenus, moins vous allez avoir de prestations, parce qu'on veut assurer un minimum à tout le monde. Ça va? Dernier élément, c'est que ça a beau être un régime d'assurance, notamment si c'est un régime public, il peut y avoir un élément de redistribution. Et même si c'est un régime privé, bien, on sait qu'à l'intérieur d'un groupe, par exemple, s'il y a des conditions de santé variables d'un individu à l'autre, bien, il y aura nécessairement redistribution à l'intérieur du groupe. Mais ça, c'est pris en charge d'un point de vue actuarial. Ça va-tu pour ça? As-tu des questions? Les avantages de ça, bien, je pense qu'avec tout ce qu'on s'est dit, ça devrait être assez clair. Protection contre risque clairement identifiée. Prestation gagnée, bien, ça veut dire que c'est une fonction des cotisations versées. Mais il y a quand même possibilité de... Il y a quand même possibilité de redistribution. Les désavantages, bien, encore là, avec ce qu'on s'est dit, ça devrait être assez clair. Ce n'est pas universel comme les régimes universels. Les prestations ne sont pas adéquates pour tous. C'est le RRQ, la retraite, c'est 25 %. Bien, 20, si tu as un salaire de 20 000, ça te fait 5 000 $ de rente de retraite par année. Là, tu ne vas pas virer loin avec ça. L'administration est plus complexe parce que là, on tient compte de ton salaire, la cotisation et des règles beaucoup plus strictes qui encadrent le paiement des prestations. Puis un dernier élément, puis on y reviendra quand on parlera de retraite, c'est que les gens ont de la misère à comprendre ce à quoi ils ont droit. Donc, on dit, bien, c'est fantastique, on a un régime à 3 étages. L'État prévoit le 1er étage, les employeurs le 2e, puis les individus le 3e. Sauf que l'individu qui est responsable du 3e, s'il ne comprend pas ce qu'il y a dans les 2 premiers, il est comme dans le champ, là. Puis ça, bien, pour certains, puis en regard de certaines protections, c'est un élément. Ça va pour ça. On s'arrête ici. Bonne continuation, puis on se retrouve vendredi matin.